Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, le dernier numéro avant l'été. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction vietnamienne, Tran A Tran. Pour l'accord commercial entre l'Union européenne et le Vietnam. Christina Okello de la rédaction en anglais.
Good evening.
À propos de l'émoi suscité par cette photo d'un père salvadorien et de sa petite fille qui sont noyées en route pour l'Amérique. Et puis Miguel Martins de la rédaction en portugais.
Boutard.
Pour faire un point sur les derniers épisodes de la crise politique en Guinée-Bissau. Mais avant cela, intéressons-nous à cette canicule qui plombe la France. Ce vendredi à l'ombre, il a fait 45,1 degrés à Villevieille, 45,9, presque 46 à Gallard-de-Montieux dans le Gard, non loin de Saint-Julien-les-Rosiers. Une première depuis le début des relevés météo au 19e siècle. Alors même si en été il est normal qu'il fasse chaud, est-ce là un symptôme du réchauffement climatique ? Christina Okello, il y a quelques mois, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique avait publié un rapport alarmant.
Oui, tout à fait Philippe, le GIEC avait tiré la sonnette d'alarme sur le rythme effréné des émissions de CO2 qui allait faire grimper la température. On avait prévu un délai de 12 ans avant de connaître les conséquences du réchauffement climatique. Les vagues de chaleur, selon le GIEC, vont devenir plus forte et plus précoce. Et je ne sais pas pour vous, Philippe, mais moi, j'ai chaud.
Dans ce studio, ça va encore.
Oui, ça va encore. Mais la solution pour rester au frais n'est pas de se rouer vers la climatisation, même si on en a très envie. La clim aggrave le réchauffement climatique, car pour refroidir, les climatiseurs ont besoin de l'énergie, et cette énergie produit la chaleur.
En fait, la vraie solution consisterait à réduire les émissions de CO2.
Oui, or, celles-ci ont augmenté de 2% l'an dernier, et la France, qui pourtant a promis de réduire son empreinte carbone, n'atteint pas ses objectifs. C'est en tout cas le constat du Haut Conseil pour le climat, un groupe indépendant mis en place par Emmanuel Macron en pleine crise des Gilets jaunes. Selon cette instance, les actions de la France en matière de lutte contre le changement climatique restent insuffisantes.
Et pourtant, ça n'empêche pas Emmanuel Macron de faire la leçon. Il durcit le ton sur le climat à la veille du sommet du G20, incitant ses partenaires à être plus ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Mais pour la présidente du Haut Conseil pour le climat, Corinne Le Quéré, la France serait trop ambitieuse et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Écoutons-la.
France has very ambitious target on climate change, so it is in fact not so contradictory.
Que dit Corinne Le Quéré ?
La présidente du Haut Conseil pour le climat explique que la France s'est fixée de trop grands objectifs et que donc ce n'est pas étonnant qu'elle n'arrive pas à les atteindre. Il faut reconnaître que les objectifs de Paris sont difficiles à tenir. Pourquoi ? Parce que 66% de son électricité provient déjà de l'énergie nucléaire, qui est déjà à bas carbone, et on ne peut pas trop jouer sur la transformation énergétique à ce niveau-là. Donc la France a un chemin plus difficile par rapport à d'autres pays car ses ambitions sont plus grandes. Mais il faut qu'elles soient suivies d'actions. Selon le Haut Conseil, ça ne suffit pas d'aller vers l'éolien ou le solaire. Il faut remplacer les infrastructures qui émettent des émissions, par exemple de chaudières, et trouver d'autres façons de chauffer nos maisons, même si ces jours-ci, on n'en a pas trop besoin. Mais ce qu'il faut changer, ce sont nos habitudes.
Alors on parlait de ce sommet du G20 à Osaka, au Japon. Le Brésil a notamment été visé, Miguel Martin.
C'est exact, Philippe. Le président français a mis carte sur table en disant que si le Brésil se désengageait de l'accord de Paris, Emmanuel Macron ne signerait pas le pacte commercial entre les 28 et le bloc sud-américain du Mercosur. On pense au Brésil et donc à l'Amazonie, bien évidemment, la plus grande forêt tropicale du monde et pour 60% de sa superficie en territoire brésilien. On parle là d'une richesse en termes de biodiversité absolument hors pair, une richesse très menacée par des intérêts économiques tous azimuts.
Et justement, la chancelière allemande et le président brésilien ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde.
C'est tout à fait ça. Et les échanges en amont de ce G20 entre les autorités des deux pays se sont accompagnés d'un taux assez peu serein. Angela Merkel, la chancelière allemande, a indiqué vouloir s'entretenir avec Jair Bolsonaro, le président brésilien, au sujet de la déforestation au Brésil. La réponse du chef d'État du géant sud-américain ne s'est pas fait attendre. L'Allemagne a beaucoup à apprendre du Brésil en matière d'environnement, a-t-il dit Bolsonaro, qui a invité sur le champ Merkel à visiter l'Amazonie, même si la chancelière allemande s'était bien gardée, elle, contrairement au président français, de mettre en cause la conclusion imminente de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur.
Tran à tran maintenant. Au Vietnam, la température peut excéder 40 degrés, c'est pas inhabituel. Alors comment vous traitez le sujet? Parce que ça va vous paraître lunaire de voir l'inquiétude en France.
D'abord, c'est vrai qu'il fait bon dans ce studio, mais ensuite, vous savez que c'est vrai, Le Vietnam est un pays rythmé par la mousson. En saison sèche, la température peut parfois atteindre jusqu'à 50 degrés. L'on parlait de grosse chaleur avec les températures enregistrées en France, même au-delà de 45 degrés, n'est pas très intéressant en soi. Ceci dit, le Vietnam est un pays qui souffre de la pollution de l'air due aux activités industrielles. C'est aussi un pays dont le nombre de voitures et de deux roues sont en augmentation très forte. Le taux d'humidité est élevé, et ce qui rend l'atmosphère très étouffante. C'est aussi un pays qui connaît un fort taux de développement urbain, d'où le phénomène de bétonisation, c'est-à-dire dont les difficultés pour faire évacuer l'air. Et l'espace des zones urbaines au Vietnam a augmenté très vite ces derniers temps. Les centres urbains, certes, contribuent à la hauteur de 70% des PIB national, mais posent aussi des défis en matière à la fois économique, mais surtout environnementale.
Alors, vous êtes concentré sur une étude réalisée par le Centre de développement et d'innovation verte, Green ID, à propos notamment de ce qui se passe dans les métropoles vietnamiennes. Qu'est-ce qui en ressort ?
Alors, il faut savoir que Ho Chi Minh Ville a 13 millions de personnes. D'habitants, et Hanoï, c'est 8 millions. Donc, c'est déjà un énorme problème d'évacuation d'air, comme je le disais. Et ils ont, cette étude montrait que concrètement, à Hanoï, par an, il y a à peu près 80 jours de pollution où le seuil de microparticules dépasse les normes de
l'Organisation mondiale de la santé. Ouais.
Voilà. Et idem pour Saigon. Donc, le Vietnam impute très souvent la pollution d'air à 40 000 décès par an. Ce n'est pas rien. Et à Ho Chi Minh Ville, par exemple, ce nombre est aussi très élevé, en particulier depuis 2013.
40 000 décès en 2013 contre 20 000 en 90, autant dire que la situation s'aggrave. Est-ce que des solutions sont mises en place ?
Oui, alors en juin 2016, le gouvernement a approuvé un plan national sur la gestion de la qualité d'air d'ici 2020 et 2025. Il prévoit bien entendu de renforcer la gestion de la qualité d'air par le biais de contrôles. Mais je pense qu'au fond, le Vietnam, comme partout dans le monde, on a peut-être besoin plus d'action que de loi.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette canicule qui plombe la France et une bonne partie de l'Europe d'ailleurs. Vous écoutez Accent du Monde.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Il y a des images qui marquent le monde et font la une de l'actualité. Elles font réfléchir, elles peuvent faire changer la politique. Et la mort d'un enfant est forte en émotion. Il y avait celle d'Aylan, c'était en 2015, un petit garçon syrien de 3 ans, mort noyé dans la Méditerranée alors qu'il tentait avec son père de rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, il y a celle d'un père et de sa fille, Oscar Alberto et Valeria, deux Salvadoriens, morts noyés également, après avoir échoué à traverser le Rio Grande, le fleuve qui sépare le Mexique des États-Unis. Cette photo a provoqué une onde de choc et elle écorne un peu plus l'image du rêve américain, Christina Lokelo.
Oui, Philippe, ce rêve d'une vie meilleure paraît bien inaccessible, ou en tout cas fermé pour tous ceux qui ne correspondent pas aux critères, pauvres ou migrants en premier lieu. C'était déjà le constat du rapporteur des Nations Unies l'an dernier. Le rêve américain sous Donald Trump est une illusion, un rêve qui pour Oscar Alberto et sa fille s'est brisé au pied de la Statue de la Liberté, selon les mots de Kamala Harris, l'une des candidates à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020.
Alors Kamala Harris qui s'est imposée dans le deuxième débat de la primaire démocrate. Les démocrates s'appuient en effet sur cette photo pour réclamer une réforme du système de l'immigration aux États-Unis.
Oui, tout à fait. L'ancien vice-président Joe Biden, en lice pour les présidentielles, parle d'une photo déchirante, d'une cruauté effroyable et veut plus d'humanité dans la politique américaine. Trump, de son côté, a exprimé son horreur à la vue de cette photo, mais a montré du doigt ses adversaires démocrates. Je vous propose de l'écouter.
People are coming up. They're running through the Rio Grande. Going across the Rio Grande is very, very dangerous.
Que dit le président américain ?
Donald Trump parle d'une quasi-invasion des migrants de l'Amérique centrale qui tentent de franchir le Rio Grande pour arriver aux États-Unis coûte que coûte. Trump veut les en dissuader et en leur rappelant que le fleuve est dangereux, fatal même, comme il a été pour Oscar Alberto et sa fille Valeria, emportés par le courant dimanche dernier. Selon Trump, si le Parti démocrate l'avait laissé fermer la frontière avec le Mexique, comme il l'exigeait, il n'y aurait pas eu des morts.
Il n'empêche, sa politique de fermeté dérange.
Oui, des agents de l'immigration ont fait savoir cette semaine que obliger des migrants à rester au Mexique le temps que leur demande d'asile soit traitée met leur vie en danger et serait contraire au corpus moral de la nation. Grosso modo, il n'appliquerait pas la répression prônée par Trump. Et pour Gloria J. Brown Marshall, une professeure de droit à l'université de Jay College of Criminal Justice aux États-Unis, elle ne comprend pas ce que Trump a contre les immigrés. Je vous propose aussi de l'écouter.
What we find here is a man in the White House who's married to an immigrant. And yet he opposes immigration.
Gloria Brown Marshall explique.
Cette professeure de droit et militante contre le racisme relève le paradoxe de Trump. Il est marié à une immigrée, sa femme Melania vient d'une famille d'immigrés, et pourtant Trump est contre l'immigration. C'est hallucinant. Et en plus, il fait des appels du pied aux Norvégiens pour qu'ils viennent aux États-Unis. Tout simplement, Donald Trump veut que des migrants blancs, selon Marshall. Une politique raciale en somme. Il faut rappeler aussi que l'année prochaine, les États-Unis s'apprêtent à recenser leurs habitants et selon la statistique, les gens de couleur seraient majoritaires d'ici 2044 et ce constat dérange. Et pour l'heure, le droit d'asile reste intact et le président Trump a reporté provisoirement des descentes massives d'agents de l'immigration à la frontière avec le Mexique, un pas salué comme une victoire par les démocrates du Congrès. Une petite victoire néanmoins bien dérisoire à côté du sort tragique d'Oscar Alberto et sa fille, les deux migrants de la photo.
Christina Okello de la rédaction en anglais de RFI. La CDAO, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Ouest réunie à Abuja au Nigeria, se penche sur les derniers événements survenus en Guinée-Bissau. Ce petit pays d'1,5 million d'habitants, enclavé entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, de la taille de la Belgique. Vous nous avez parlé, hein, Miguel Martins, à plusieurs reprises de cette crise politique. Où en est-elle? Où en est la situation aujourd'hui?
Là, Philippe, ce jeudi, le Parlement a fini par mettre un terme au mandat présidentiel. Celui-ci s'était terminé dimanche dernier. Le prochain scrutin n'était prévu que fin novembre. Le blocage institutionnel durait depuis plus de 3 mois. La CDAO avait fini par donner au chef d'État jusqu'à dimanche dernier, dernier jour du mandat présidentiel, pour investir un Premier ministre et son gouvernement. José Mario Vaz, le président, a fini ce jour-là par nommer Aristides Gomes, le deuxième nom proposé par le parti qui a gagné les élections. Il n'a cependant pas investi le gouvernement dont la liste lui avait été présentée par le Premier ministre. Maintenant, on s'attend à ce que 2 délégations différentes se rendent à Abuja pour le sommet régional.
Ce qui veut dire, Miguel, que le chef de l'État a été destitué par le Parlement et que c'est justement le président de l'Assemblée qui doit lui succéder. Hein.
Voilà, le Parlement a en effet mis un terme aux fonctions du président, le PAGC, parti vainqueur des élections du 10 mars dernier, et ses alliés s'en expliquent. Écoutons Domingo Simões Pereira, le président du parti, par ailleurs, le premier nom qui avait été rejeté par le président pour être Premier ministre.
Trata-se de respeitar a Constituição da Guiné-Bissau, reconhecer que o Presidente da República, ao não dar posse...
Alors, que dit cet homme politique bissau-guinéen?
DSP, c'est par ses initiales qu'il est connu dans son pays, nous dit qu'il était question de faire respecter la Constitution. Le Président aurait essayé de gommer le choix des électeurs, et ceci en reportant sans cesse l'investiture du gouvernement. Et maintenant, le Parlement essaye de faire face à la vacance du pouvoir présidentiel. Par ailleurs, le Premier ministre se retrouve toujours son gouvernement nommé, ce que le président aurait dû faire également.
Miguel, voyons maintenant ce que pensent les soutiens du président déchu.
Là, c'est pas du tout le même son de cloche, évidemment. Le président et ses soutiens mettent en cause la légitimité du Parlement pour mettre un terme aux fonctions du chef de l'État. Victor Pereira est le porte-parole du Parti du Renouveau Social.
De nenhum momento, presidente qui est apenas uma segunda figura protocolaire do Estado pourra substituer le président. A nossa Constituição diz.
Le Parti du Renouveau Social, dont la position est.
Absolument. Donc, Victor Pereira nous disait que la loi électorale prévoit que les élections présidentielles se tiennent entre le 23 octobre et le 25 novembre. Si son mandat se termine avant cette date-là, il doit rester en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur à la suite de nouvelles élections. Le chef de l'État, après la fin officielle de son mandat, ne peut juste pas dissoudre le Parlement. C'est la seule compétence qui lui ait été enlevée, mais il resterait en fonction. En aucun cas, dans un cas comme ça, il n'est remplacé par le président du Parlement, nous dit-il. Voir désormais comment la CDAO va donc gérer ce dossier épineux dès ce samedi donc à Abuja.
Miguel Martins de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. À Hanoï, ce dimanche, sera signé l'accord commercial entre l'Union européenne et le Vietnam. Un accord qui doit permettre de supprimer quasiment tous les droits de douane sur les biens, hein, puisque 99% d'entre eux vont disparaître. Tran à Tran de la rédaction vietnamienne, cet accord, dont les négociations ont été conclues en décembre 2015, a été approuvé finalement mardi dernier par l'ensemble des États membres.
Oui, il s'agit de l'accord de libre-échange le plus ambitieux jamais conclu avec un pays en développement, assure la commissaire européenne en charge du commerce, Cecilia Malmström. En fait, cet accord comprend deux volets. D'abord, il y a le volet des droits de douane, comme vous venez de le dire. Il doit effectivement éliminer 99% des droits de douane sur les marchandises échangées entre les deux partenaires en 10 ans.
Oui, sur 10 ans, c'est pas du jour au lendemain.
Sur 10 ans.
Et
le second volet concerne la protection des investissements qui établit un système de règlement des différends. Et donc, en fait, ces deux textes doivent faciliter les activités des entreprises européennes au Vietnam en supprimant donc les taxes, les obstacles techniques grâce à un alignement réglementaire très important. Voilà. Et il sera également limité à 6 milliards d'euros les investissements européens accumulés et qui devraient faire un bond. En fait.
Alors, il faut rappeler également que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne dans la région, avec près de 50 milliards d'échanges commerciaux. C'est colossal.
Tout à fait. Et en fait, c'est un peu surprenant parce qu'on pensait que ce sera un autre pays d'Asie plus grand, par exemple l'Indonésie ou la Malaisie, eh ben non, c'est le Vietnam. Et surtout, effectivement, avec cet accord, le Vietnam deviendra donc une porte d'entrée pour l'Union européenne dans la région. C'est la position en Asie et la proximité du Vietnam avec la Chine également qui intéresse les Européens. L'accord avec le Vietnam, il faut le rappeler, est le deuxième de l'Union européenne avec l'ASEAN, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est.
Pour signer cet accord commercial avec l'Union européenne, Tran à Tran, le Vietnam a dû tout d'abord ratifier un certain nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail, dont l'une d'entre elles a suscité pas mal de réticences du côté de Hanoï.
Oui, plus exactement, le Vietnam a dû ratifier 5 sur les 8 conventions de l'OIT, c'est-à-dire de l'Organisation internationale du travail, et celle qui a donné le plus de fil à retordre est la convention 98. Il s'agit donc d'un texte adopté en 1998 obligeant les États membres à respecter ou promouvoir la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, entre autres. Et justement, sur nos antennes, notre invité, Hoàng Cao Sang, un avocat de Ho Chi Minh Ville, explique que dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment de changement suite à cette ratification.
Alors, que dit-il ?
Alors, Hoàng Cao Sang nous explique qu'il n'y a pas de changement immédiat dans la vie des travailleurs vietnamiens pour deux raisons. La première, c'est que la Convention 98 va de pair avec la Convention 87. Cette dernière concerne la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Or, le problème est que pour l'instant, le Vietnam n'a pas de syndicat libre, mais un seul syndicat représentant les travailleurs et ce syndicat dépend de l'État. Le second obstacle est que il y a une certaine contradiction entre la Convention 98 et le droit du travail et le droit syndical du Vietnam. Et donc, d'après notre invité, le Vietnam ne semble pas prêt à réformer ces deux dernières lois.
En tout cas, le Vietnam cherche à montrer sa bonne volonté avec ses partenaires commerciaux, même si il reste un certain nombre de choses, bien évidemment, à mettre à plat. C'était Tran à Tran de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale, et c'était Accent du Monde, donc le dernier avant l'été, Accent du Monde qui fait une pause en juillet et en août. Nous vous donnons rendez-vous toujours avec le même plaisir le 6 septembre prochain. Ce sera là encore un vendredi. Bel été à vous.